Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour un nouvel épisode de l'émission Le Lieu-dit sur Radio Bourg-lès-Valence. Moi c'est Pierrick et comme chaque mois, je vous emmène découvrir un nouveau lieu chargé d'histoire. Aujourd'hui, je suis à Étoile-sur-Rhône, un petit village situé au sud de Valence. Je vous emmène découvrir l'ancien château de Diane de Poitiers. Et à l'occasion du Mars des Femmes sur Radio BLV, nous évoquerons l'histoire de Diane de Poitiers, une grande figure féminine de la Drôme. Étoile-sur-Rhône a des origines qui remontent à l'Antiquité. Durant l'époque romaine, d'anciens légionnaires, les soldats romains, se seraient installés à l'emplacement du village afin de contrôler la vallée du Rhône. Mais c'est surtout au milieu du Moyen-Âge que l'histoire de la ville et de son château commence. À la fin du Xe siècle, les évêques de Valence font construire un donjon. De forme pentagonale, donc avec cinq côtés, il est à l'origine du château. Il était situé à l'emplacement de l'actuel parc municipal. Par la suite, le château passe entre les mains de la famille de Poitiers-Valentinois, les comtes de Valentinois. Au XIIIe siècle, ils améliorent le château, en construisant notamment une tour avec un portail et de hautes murailles pour protéger la forteresse. La ville est également protégée par un rempart, dont il ne reste aujourd'hui que quelques traces. Durant la domination des Poitiers-Valentinois, le château ne semble n'avoir quasiment jamais été occupé, les comtes préférant les châteaux de Grane et de Marsanne. Durant un siècle et demi, les comtes valentinois mènent une guerre féroce contre les évêques de Die et de Valence. Appelée « guerre des épiscopaux », elle se termine en 1356 par le traité de paix de Lyon. Mais cette guerre a épuisé la famille, qui se retrouve peu à peu ruinée. En 1419, à la mort du dernier comte de Valentinois, qui n'a pas de descendance, la branche des Poitiers-Valentinois s'éteint, tandis que le comté passe entre les mains du roi de France. Au XVe siècle, le château d'Étoile-sur-Rhône est cédé au futur roi de France, Louis XI, avant de passer finalement entre les mains d'Aymar de Poitiers-Saint-Vallier. Cet homme, issu d'une autre branche de la grande famille des Poitiers, est le grand-père de la célèbre Diane de Poitiers. Diane de Poitiers est née en 1419, sans doute au château de Saint-Vallier, même si une tradition locale prétend qu'elle serait née à Étoile-sur-Rhône. Cela dit, un manque de preuves écrites ne permet pas d'affirmer cette tradition. Elle hérite du titre de comtesse de Valentinois. Elle devient la maîtresse favorite du roi Henri II et une femme très influente auprès du roi. Très proche d'Henri II, depuis qu'il est jeune, elle finit par s'imposer à la cour du roi. Ambitieuse, elle sait écarter ses rivales et rester aux côtés du monarque. Elle s'intéresse notamment au fonctionnement des finances du royaume. Diane de Poitiers reçoit de nombreux cadeaux de la part d'Henri II. Et notamment un des joyaux des châteaux de la Loire, le château de Chenonceau. En 1549, c'est la consécration. Elle accède au titre de duchesse de Valentinois. Son nouveau titre lui offre de nouveaux privilèges à la cour. Surtout, elle étend les anciennes terres des Poitiers-Valentinois, dont elle est la lointaine descendante. Le duché est alors un vaste territoire à en faire pâlir ses ancêtres. Il correspond à l'équivalent de la moitié de l'actuel département de la Drôme, et il s'étend surtout dans sa partie ouest, du nord au sud. À la mort d'Henri II, en 1559, elle est écartée de la cour royale, et elle s'éteint en 1566. Durant toute sa vie, Diane de Poitiers a séjourné de nombreuses fois au château d'Étoile-sur-Rhône, qui porte aujourd'hui son nom. À cette époque, le château se compose de plusieurs bâtiments, appelée logis, d'une grande galerie, d'une salle de réception, d'une salle d'armes et d'une chapelle. Mais au XVIIe siècle, il connaît une fin brutale. En 1626, Louis XIII ordonne la destruction et le démantèlement de l'ensemble des châteaux, places fortes et forteresses qui ne servent plus, qui sont situées trop loin des frontières du royaume, ou qui n'ont plus aucun intérêt stratégique. Comme d'autres châteaux de Drôme, à Cré ou à Livron par exemple, le château d'Étoile-sur-Rhône est démantelé. Malgré tout, la porte monumentale, les dépendances, la tour des balistes, la maison du clocher et les écuries résistent. Mais peu à peu, le site sert de carrière de pierre pour la construction de nouvelles maisons dans le village. Au XIXe siècle, les ruines du château sont achetées par Honoré Laurent de Parisot de Durand de la Boisse. Il restaure et réaménage les parties basses du château. Ses descendants continuent ce travail au cours du XXe siècle. Aujourd'hui, le château est toujours une propriété privée et ne se visite pas. Il est néanmoins possible de voir plusieurs vestiges de l'édifice depuis l'extérieur. L'élément le plus remarquable est la porte fortifiée. Il s'agit de l'ancienne entrée du château. Composée d'une voûte en plein cintre, une voûte en forme de demi-cercle parfait, elle est remarquable par son triple assommoir. Un assommoir, c'est un trou par lequel les défenseurs jettent des pierres pour tuer les ennemis arrivant en dessous. Avec trois assommoirs, on peut imaginer le piège mortel qui se refermait sur les ennemis qui voulaient attaquer le château. Dans le centre ancien d'Étoile-sur-Rhône, plusieurs éléments viennent rappeler le passé de la ville. Non loin du château, une tour Renaissance attire forcément notre regard. Il s'agit de la tourelle d'escalier d'un hôtel particulier du XVe-XVIe siècle. En empruntant la rue principale et après être passé devant la mairie, on arrive à l'église Notre-Dame. Sur le portail monumental, on peut voir une plaque de marbre avec des inscriptions en latin. Il s'agit d'une charte de liberté. Gravée le 21 février 1244, elle évoque les privilèges accordés par le comte Aymar III de Poitiers-Ventinois aux villageois, notamment la dispense du paiement de tous les impôts directs. En conflit avec les évêques de Die et de Valence, le comte rallie les habitants à sa cause. Cette liberté permet le développement économique de la ville, l'exemption d'impôts attirant les commerçants et les artisans. Juste à côté, une curieuse colonne en pierre attire notre attention. Il s'agit de l'ancien pilori du village. Cette forme de condamnation est tout droit issue du Moyen-Âge. Elle est continuée sous l'Ancien Régime et n'est supprimée qu'à la Révolution en 1789. Cette condamnation consiste à attacher le détenu à un poteau, en bois ou en pierre, et à l'exposer sur la place publique. Nourri, le condamné est humilié publiquement par les villageois pendant plusieurs jours. Notre voyage à Étoile-sur-Rhône touche à sa fin. Mais avant de partir, un dernier regard sur la devise de la ville que l'on peut lire sur la façade de la mairie. Non licet omnibus, qui signifie « il n'est pas permis à tous ». J'espère vous avoir permis de découvrir l'histoire du château d'Étoile-sur-Rhône et les vestiges du passé de la ville. J'espère également vous avoir apporté un autre regard sur cette grande figure féminine dromoise qu'est Diane de Poitiers. Et cette famille, dont le nom pourrait nous renvoyer à la ville de Poitiers dans le Poitou, est bel et bien une famille provençale qui a marqué l'histoire de Drôme. Pour terminer, et à l'occasion du Mars des Femmes, il est bon de se rappeler que la lutte pour les droits de la femme n'appartient toujours pas au passé, et qu'il faut encore se battre pour que les femmes puissent avoir les mêmes droits que les hommes. C'est sur ces mots que nous nous quittons. Je vous remercie d'avoir écouté cette chronique. On se retrouve le mois prochain pour la découverte d'un nouveau lieu chargé d'histoire. Une émission Pierre Gland et Radio Belvé, et Lully avec sa délicate mélodie.